Voilà, je vous propose, pour commencer, d'ouvrir vos Bibles, lire un passage dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 13. Une question que Jésus pose, qui peut nous paraître surprenante. Nous allons voir plusieurs choses cet après-midi. Les Évangiles, ce sont des livres qui ont été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont quatre personnes différentes qui ont relaté la vie de Jésus sur la terre et ce pourquoi elle était venue. Chacun l'a apporté en fonction de à qui il s'adressait et chacun a choisi de faire apparaître dans ce qu'il écrivait des choses qui intéressaient les personnes à qui il s'adressait. Donc les évangiles, on s'aperçoit que quand on les lit, qu'on les croise, ils se complètent. Donc il y a des faits qui sont certainement relatés dans certains évangiles et dans d'autres, c'est pas tout à fait pareil. Mais on se rend compte que quand on met tout ensemble, ça se complète. Donc on va voir un peu ça cet après-midi. Et je vous donne ça pour ces explications, pourquoi on va aller d'un évangile à un autre en fait. Dans cet évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 13, Jésus va poser une question suite à de nombreux miracles qu'il a fait. Notamment, il a nourri une foule avec 5 pains et 2 poissons. Il a fait un prodige. Et là, Jésus pose cette question, je lis au verset 13, Matthieu 16, 13. Ouais. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée et de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» On s'arrête là. Est-ce que vous croyez que Jésus, quand il pose cette question, il s'inquiète de sa réputation dans le pays? On voit nos hommes politiques, ils sont très friands de ces choses. Ils vont voir les sondages, tout ça, pour voir s'ils sont bien aux yeux des hommes. Mais Jésus, vous croyez que c'est cette démarche qu'il avait? Non, pas du tout. Jésus venait d'accomplir un certain nombre de miracles et les disciples qui le suivaient avaient vu toutes ces choses. Et ce que Jésus voulait vraiment savoir, c'est s'ils avaient compris qui il était. Les miracles que Jésus faisait avaient un but, c'était de révéler aux hommes qui il était vraiment. Et on va voir que Jésus, c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous professons, Jésus c'est le Fils de Dieu. Et Jésus voulait vérifier que ses disciples avaient bien compris qu'il était le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il pose cette question. Et cet après-midi, on va voir justement des passages qui nous amènent à nous positionner par rapport à cette question. Cette question, Jésus l'a posée à ses disciples et Jésus nous la repose encore aujourd'hui. Qui dites-vous que je suis ? Nous sommes là, tous là dans ce lieu. Pour les uns, Jésus, c'est quelqu'un en statue sur une croix. Pour d'autres, Jésus, c'est un philosophe. Pour d'autres encore, Jésus, c'est un nationaliste ou alors c'est un bébé dans une crèche qu'on va fêter à Noël, mais qui sera bébé toute sa vie d'ailleurs. Pour ces gens-là, ils le mettent au pied du sapin, mais Jésus n'a jamais grandi dans leur tête. Et Jésus, c'est autre chose que ça. Alors on va voir, justement, dans le pays d'Israël, comment Jésus était perçu. Nous allons dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, et nous lisons, à partir du verset 1er, Jésus à Nazareth. Que vous le connaissiez plus ou moins, vous savez que Jésus était de provenance de Nazareth. Donc Jésus, comment était-il perçu dans sa patrie ? Nous lisons ceci. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Ça veut dire que sa seule présence faisait que les gens n'arrivaient pas à croire en lui. C'est quand même paradoxal. Jésus, qui serait au milieu de nous, du fait de sa présence, ferait qu'on ne pourrait même pas croire en lui. C'était le cas dans son pays. Il était une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. C'est d'ailleurs une phrase qu'on entend souvent, même dans notre vie de tous les jours. Moi, j'ai souvent entendu cette phrase au travail. C'est une phrase qu'on entend très souvent, qui a été reprise. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur incrédulité. Jésus était à Nazareth. Et on voit d'ailleurs que Nazareth, c'était une ville incrédule. Ça veut dire qu'elle ne croyait pas en Dieu. Nazareth avait même d'ailleurs une sacrée réputation parce que, alors que Jésus va rencontrer Nathanaël, qui deviendra un de ses disciples, Nathanaël dit, alors qu'il ne connaît pas Jésus, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Pour ceux qui prennent des notes, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 46. Nazareth était connu pour ça. C'était une contrée difficile et qui ne croyait pas en Dieu. Et Jésus a grandi à Nazareth. Et Jésus était connu comme étant un enfant du pays, comme étant le fils du charpentier. Et pourtant, quand on lit, regardez bien avec moi le texte, au verset 3, il est dit ceci. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, etc., etc. Pour les gens de Nazareth, Jésus, déjà d'une part, c'était un homme, mais en plus de cela, c'était moins qu'un homme. Je m'explique. Dans la tradition juive, quand on était le fils de quelqu'un, on nommait toujours le père, par respect pour les parents, pour le père, et on portait le nom du père. C'était comme ça chez les juifs. Si vous prenez l'évangile de Matthieu, vous avez une Bible, prenez l'évangile de Matthieu, la généalogie de Jésus est indiquée toujours de père en fils. Et excusez-moi, mesdemoiselles, mesdames, les noms des dames ne figurent pas, ou alors à moins qu'il y ait vraiment un intérêt spirituel. Et dans les généalogies, ce sont les noms des pères qui sont donnés. Parce que, voilà, et pourtant, Jésus, quand ils le nomment, ils disent le fils de Marie. Pourquoi ? Parce que Jésus, quand il est arrivé sur cette terre, Il est né, il y a eu une controverse à la naissance de Jésus parce qu'il est né 9 mois après son mariage. Et donc il y avait possibilité que Joseph, son père adoptif humain, on va dire, n'était peut-être pas son père. Et il a grandi à Nazareth dans cet état d'esprit. Les gens qui l'entouraient se disaient, mais mince, Jésus, finalement, son père, on ne le connaît pas. Et Jésus, comme on peut le dire, c'est un bâtard peut-être bien. Et il a grandi comme ça. Il a toujours été méprisé de par sa vie de famille. Il a été méprisé. Sa mère a été méprisée parce que Marie était vue comme une femme qui n'a pas été solide. Une femme qui a eu un enfant alors qu'elle n'était pas mariée. Marie, Joseph, son mari et Jésus ont vécu avec ça pendant tout le temps où Jésus a grandi quand il était à Nazareth. Et quand Jésus est nommé ainsi, Jésus, le fils de Marie, s'est montré tout le mépris qu'on pouvait donner à quelqu'un. Parce qu'on ne voulait même pas citer son père. C'était non seulement une constatation qu'il était simplement une personne humaine, ils refusaient complètement que Jésus soit capable de faire des miracles. Pour eux, Jésus, c'était un charpentier, point, fils de Marie. Et en disant cela, c'était une marque de mépris qui était vraiment énorme. Alors on va remonter un peu dans le temps. Nous allons aller dans l'évangile de Matthieu. Vous allez voir que non seulement ils sont méprisants, mais vous allez voir à quel point ils sont méprisants. Matthieu au chapitre 9, là je vous dis ceci parce qu'on se situe juste avant, vous verrez dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Marc, ces mêmes faits sont relatés, et juste avant, il est question de ce passage, juste avant que Jésus aille dans sa patrie. Donc au chapitre 9 de l'évangile de Matthieu, je lis au verset 27. Juste avant, Jésus a guéri, a ressuscité une jeune fille, la fille de Jaïrus. À ce moment-là, Jésus était à Capernaum. Capernaum, je le souligne pour tout à l'heure, c'est important. Capernaum, c'est au nord du lac de Tibériade. Si vous faites un peu une carte dans votre tête. Capernaum, c'est au nord du lac de Tibériade. Et là, il va ressusciter la fille d'un sacrificateur qui était nommé Jaïrus. Juste après, on lit ceci, donc juste après ce miracle, Jésus allait justement s'en aller du lieu où il venait de faire ce miracle. Deux aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors, il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi !» Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais à peine sortis, ils répandirent sa renommée dans le pays entier. Deux aveugles qui vont le suivre et qui vont appeler Jésus. Pour eux, Jésus, ce n'était pas un charpentier, c'était le fils de David. Pourquoi ? Ils venaient de voir ces aveugles, « voir », entre guillemets, ils avaient compris que là où ils étaient, il venait d'arriver un miracle extraordinaire. Une jeune fille de 12 ans venait d'être ressuscitée. Et ces aveugles, ils se sont dit, mince, s'il est capable de ressusciter une jeune fille, pourquoi nous, on ne pourrait pas voir ? Et là, ils ont réfléchi en eux-mêmes et ils se sont dit, mais ça ne peut pas être autrement. Jésus, c'est le Messie, celui qu'ils attendaient. C'est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur du monde. Et ces aveugles-là, ils se sont mis ça en tête. Alors, ce même passage de la résurrection de Jaïrus, on l'a dans l'évangile de Marc. On va y aller. Marc, au chapitre 5. Vous avez l'histoire, à la fin du chapitre 5, l'histoire de cette résurrection de la fille de Jaïrus. Ce miracle-là, c'est vraiment un miracle qui nous permet de nous repérer un peu dans le temps et l'espace. Et juste après ce miracle, justement, il est question de Jésus qui s'en va à Nazareth. Donc si on croise avec ce que nous venons de lire sur l'histoire de ces deux aveugles, on voit que suite à ce miracle, je lis au chapitre 6, au verset 1er, « Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. » C'est un verset qui nous dit beaucoup, parce que suite à ce miracle de cette résurrection de la fille de Jaïrus, Jésus va prendre le chemin de Nazareth. J'ai regardé sur une carte, c'était 40 kilomètres. C'est quand même pas rien à pied. Donc Jésus va partir de Capernaum et il va se rendre à Nazareth. Et pendant tout ce chemin, si vous avez lu avec moi dans l'évangile de Matthieu, quand est-ce que Jésus s'est occupé des aveugles ? Je relis. Verset 27. Comme Jésus s'en allait, donc il va à Nazareth, deux aveugles le suivirent. Là, le texte ne nous dit pas combien de temps ils ont suivi Jésus. En criant, aie pitié de nous, fils de David. Verset 28, à son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Donc vous avez une scène assez incroyable où pendant 40 kilomètres, deux aveugles vont marcher derrière Jésus et vont crier derrière lui, aie pitié de nous, fils de David. Ils avaient reconnu le Messie et pourtant, ils étaient sûrs de ce qu'ils avaient vu, entre guillemets. Parce qu'ils étaient encore aveugles, mais pourtant ils voyaient déjà. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va dire. Et c'est pas pour rien que Jésus se rend à Nazareth, parce que Jésus va à Nazareth, parce que il sait que ces aveugles vont le suivre. Et Jésus, il va rentrer à Nazareth, cette ville incrédule, qui est incapable de voir, reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu, et derrière lui, alors qu'il rentre à Nazareth, et il y a deux aveugles qui braillent, « Aie pitié de nous, fils de David !» Mais c'est pas le fils de David, c'est le fils de Marie. Il y a quelque chose de bizarre. Tout le monde n'est pas d'accord sur la question. Il n'y a pas la même perception. Jésus n'est pas perçu de la même manière selon les personnes. Jésus, c'est le fils de David ou alors c'est le fils de Marie ? On ne sait plus. Jésus, il arrive à Nazareth et il va guérir ces deux aveugles à Nazareth. Ça fait partie des miracles qui ont lieu dans cette contrée incrédule. Mais ce n'est pas des Nazaréens qui ont été guéris. Ces deux aveugles qui avaient reconnu en Jésus le Messie. Quel courage et quelle persévérance de la part de ces deux aveugles d'avoir suivi Jésus tout le long de ce chemin, d'avoir pu crier tout le long de ce chemin. Vous imaginez le trajet ? Jésus, pendant tous ces kilomètres, qui entend les aveugles crier derrière lui. Et pourtant, on se dit, Jésus, il manque d'amour quand même. Par rapport à ce qu'on a chanté, on se dit, c'est bizarre. Mais croyez-vous que c'était quand même pas mal qu'il arrive à Nazareth ? Avec ces gens qui étaient en train de l'acclamer comme étant le Messie. Les gens de Nazareth ont entendu deux aveugles proclamer Jésus comme étant le Messie. Ces aveugles-là, ils n'étaient même pas guéris, ils étaient déjà en train de proclamer à tout le monde que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu. alors qu'ils n'étaient même pas encore guéris. Et ces Nazaréens n'ont même pas pu, parce que quand on arrive comme ça, Jésus, quand il marchait, il était d'une grande renommée. Il avait toujours une foule qui le suivait. Et Jésus, quand il est rentré à Nazareth, à mon avis, il n'était pas seul. Et quand il est arrivé à Nazareth, les gens de Nazareth ont vu qu'il arrivait. Ils ont surtout entendu qu'il arrivait. Et ils ont entendu ces aveugles qui proclamaient Jésus, fils de David. Et ils ont même vu ces aveugles être guéris. Et quand Jésus commence à leur parler, ils sont en train de dire, mais n'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le fils de Marie? Qui dit-on que je suis? C'est une question qui nous est posée. Comment on se positionne sur cette question? Est-ce que Jésus, c'est simplement un homme? Ou est-ce que Jésus, c'est plus que ça? On va lire un autre passage. L'histoire du centenier dans Matthieu, au chapitre 27. Nous avons un autre point de vue, nous avons encore plus que le fils de David. Dans l'évangile de Matthieu, ce qui est très intéressant de remarquer, c'est que toutes ces affirmations qui montrent la réalité de ce qu'était Jésus, ce n'étaient pas des gens d'Israël qui le disaient, c'était des gens d'ailleurs. Au chapitre 27 et au verset 54, Jésus, il est là, en agonie sur cette croix. Pourquoi il est sur la croix, Jésus? Jésus, il est venu sur la terre en tant qu'homme, sans commettre de péché pour que nous puissions être sauvés. Parce que nous sommes incapables de faire le bien. Ce n'est pas par nos mérites qu'on est sauvés. Ce n'est pas parce qu'on a fait des œuvres, ce n'est pas parce qu'on a fait telle ou telle chose qu'on va pouvoir être sauvés. Des tas de gens autour de nous, ils espèrent que Dieu sera clément avec eux. Mais ce n'est pas ça la bonne base. Parce que si on prend les œuvres, imaginez le brigand sur la croix à qui Dieu a dit, à qui Jésus a dit, « Avec moi, tu seras dans le paradis aujourd'hui même. » Ce brigand, il a fait quoi comme œuvre? Il a tué des gens, il a fait quoi? C'est une base qui n'est pas bonne. Jésus est venu sur la croix pour mourir pour nous, pour nos péchés, et il nous suffit simplement de croire que Jésus est venu pour ça, et que par ce qu'il a fait sur cette croix, par sa souffrance, par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Alors on a la guérison de problèmes de santé, peut-être. Dieu est Dieu qui guérit encore aujourd'hui, on le proclame. Si vous êtes venu cet après-midi avec une maladie ou quoi que ce soit, vous pourrez vous avancer sur le devant, on pourra prier pour vous. Mais Dieu ne guérit pas que cela. Dieu veut nous guérir dans notre être spirituel. Quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un qui est dans le découragement, quelqu'un qui ne supporte plus la vie. Dieu veut te guérir. Dieu est venu sur cette croix pour mourir, pour que tu puisses avoir cette guérison. Que tu puisses avoir cette régénération. Dieu veut te changer. Dieu veut te transformer. Et c'est parce qu'il a fait. Nous lisons au verset 27 et au chapitre 27, au verset 54. Jésus est en souffrance. Et là, on va lire un peu plus tôt, verset 50. Jésus poussa de nouveau un cri, d'une voix forte, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent. Et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Il était vraiment le Fils de Dieu ». Jésus, c'est non seulement le Messie, le sauveur des Juifs, mais c'est aussi le Fils de Dieu, c'est le sauveur du monde. Et c'est un centenier romain qui va donner cette affirmation. Le centenier romain et ceux qui étaient à la croix avaient vu toutes ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a poussé un grand cri et il y a eu un tremblement de terre sur ça. Imaginez la scène. quelqu'un qui pousse un grand cri, et au moment où il pousse ce grand cri, un grand tremblement de terre arrive, et l'épicentre, c'est la personne. Imaginez la scène simplement, ça nous donne des frissons quelque part. Il y a un autre texte, et ça, ce que Jésus fait, ce cri, ce tremblement de terre que Dieu permet, c'est encore un signe pour les gens d'Israël. Je fais cette citation qui est tirée de l'Exode. Exode, chapitre 19, versets 16 à 18. « Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs. » Là, il s'agit du moment où Dieu descend sur la montagne pour donner la loi au peuple d'Israël. Dieu descend personne sur la terre. Et voilà ce que je lis. « Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. » Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. La voix de Dieu fait trembler la terre. Et la voix de Jésus sur la croix quand il est mort a fait trembler la terre. C'était encore un signe que les peuples d'Israël n'ont même pas su voir. La voix de Jésus était la voix de Dieu. Quand Jésus est mort, il a fait trembler la terre. Dieu a voulu que la terre tremble. Pourquoi ? Parce que c'était un signe qui montrait que Jésus était Dieu. Et qui l'a reconnu ? Un aveugle. Qui a vu Jésus ? Un aveugle. Le centenier romain. Vous croyez qu'il avait une grande culture juive ? Certainement pas. Il ne savait pas que ce qui s'était passé sur le mont Sinaï, ce centenier. Et pourtant, il voyait. Il avait reconnu dans ce phénomène le fait que Jésus pousse un grand cri, la terre tremble. Celui-ci était le Fils de Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Je vais lire trois versets. Et ces trois versets que nous allons lire vont nous montrer qu'il nous faut nous positionner par rapport à cette question. Je lis dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Un autre verset, je donnerai quelques explications après. Jean, chapitre 5, verset 30, je lis ceci « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste. » Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus leur dit, l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Il s'adressait aux Juifs. Jésus, il explique qu'il est la lumière du monde. Jésus nous montre que nous sommes pécheurs et que sans ce qu'il fait sur la terre, sans son sacrifice à la croix, on ne peut pas être sauvé. C'est ça que Jésus dit. Jésus, il dit qu'il est envoyé de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu et que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, était comme venant de Dieu lui-même. Jésus était Dieu sur la terre, dans la chair d'un homme. Et Jésus était aussi une nourriture, entre guillemets, Jésus veut nous enseigner, veut nous nourrir, veut faire de nous des gens qui vont lui ressembler. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait par ce sacrifice à la croix qu'il a fait pour nous et par ce sang qui a coulé. Cela nous demande de notre part, justement, de croire au fait que Jésus soit venu pour ça. Imaginez que Jésus ne soit pas un homme, que Jésus ne soit pas le Fils de Dieu. Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde » à des Juifs, quand Jésus dit « Je suis le pain de vie » à des Juifs, le pain qui descend du ciel, pour des Juifs, c'est terrible d'entendre ça, parce que les Juifs, ils ont connu la manne qui descendait du ciel, et Jésus se faisait Dieu. Pour les Juifs, si Jésus avait été un homme, c'était un fou allié, parce que la destinée de Jésus était certaine. Donc il n'y a pas d'entre-deux possible. On ne peut pas dire Jésus c'est un philosophe, Jésus c'est un grand prophète. Parce que Jésus a dit des choses qui font que soit il est fils de Dieu, soit c'est un imposteur. Soit il est fils de Dieu, Jésus le dit qu'il est le fils de Dieu. Quand on lui pose la question, quand Ponce Pilate lui pose la question, « Es-tu le fils de Dieu ?» Jésus a répondu, « Tu le dis. » Jésus a proclamé qu'il était fils de Dieu. Donc si c'est un homme, c'est un gros menteur. C'est un fou. Donc cet après-midi, comment on se positionne? Est-ce que Jésus, pour nous, c'est un fou? Ou est-ce que, pour nous, Jésus, c'est le Fils de Dieu? La réponse des Juifs, c'était celle-ci. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, au verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Jésus s'était fait Dieu pour eux, mais Jésus n'était pas Dieu. Jésus était un homme qui blasphémait tout le temps. C'était un fou. Ça, c'était le choix des Juifs. C'était le positionnement des Juifs. Si on revient à notre lecture, et je vais m'arrêter là, retournons dans Matthieu au chapitre 16 et on va aller un peu plus loin dans notre texte. Matthieu chapitre 16, verset 13. On va aller au verset 15. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Je reformule la question. Avez-vous compris qui j'étais? C'est ça la question. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » On va continuer quand même. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et on en arrive à ce dernier point, c'est que pour reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu, c'est pas dans la tête que ça se passe. Il nous faut une démarche sincère. Il nous faut vouloir savoir. Il nous faut être sincère avec Dieu et lui dire, voilà, je te connais pas, mais je veux vraiment savoir si tu existes. Je te connais pas, mais viens te révéler à mon cœur, que je puisse comprendre, que je puisse voir. On est tous ces deux aveugles qui ont suivi Jésus. On est tous comme eux. Et si Jésus ne nous ouvre pas les yeux, on verra pas. Il nous faut une révélation. On ne peut pas choisir de suivre Jésus simplement parce qu'on décide de venir à l'église de Toulouse-Saint-Agne et d'adhérer à une église, entre guillemets, et faire une signature, prendre un bain et terminer. C'est pas ça. Il nous faut avoir une vraie démarche avec Dieu quand on est seul. Une vraie démarche spirituelle où on va vouloir dire, voilà, Seigneur, révèle-toi mon cœur, ouvre mes yeux, montre-moi qui tu es. Et je peux vous garantir que si vous êtes sincère avec Dieu et que vous avez cette démarche, Dieu vous ouvrira les yeux. Dieu se révélera à vous. Et alors vous pourrez affirmer, comme ces aveugles, que Jésus c'est le Fils de Dieu et que Jésus sera venu dans votre vie. Et vous ne pourrez plus dire que vous n'avez pas connu Dieu et vous serez certain de ce que vous aurez vécu. Amen. Voilà, pendant qu'on va juste rester quelques minutes. La tête baissée, fermez les yeux. Je vais vous reposer cette question que Jésus a posée. Et si vous avez à cœur qu'on prie pour vous, avancez-vous sur le devant et Nicolas priera pour vous. Le Seigneur Jésus vous demande « Que dis-tu que je suis ?» Je suis quoi? Est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis un fou allié? Ou est-ce que je suis le Fils de Dieu? Est-ce que tu veux me connaître? Que chacun puisse répondre à cette question. Parce que le Seigneur Jésus, comme on l'a chanté, il veut nous sauver. Le Seigneur Jésus, il nous veut près de lui. Il ne veut pas nous juger. Le Seigneur Jésus est venu sur la croix pour nous sauver, nous pardonner de nos péchés. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il nous aime. Il ne nous veut pas loin de lui. Le Seigneur Jésus nous veut tout près de lui. Qui dis-tu que je suis? Voilà, c'est une question que vous pouvez repasser dans votre cœur. Le Saint-Esprit la repassera peut-être dans votre cœur. Mais ce cœur sincère, vraiment, devant Dieu, nous montrera comment on se positionne. Seigneur Jésus, je veux te prier, te remercier pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus, parce que Tu es venu pour nous sauver. Tu es venu pour nous pardonner de nos péchés. Et tout ce que tu as connu sur cette terre, ce mépris, cette ingratitude de ceux qui t'entouraient, Seigneur Jésus, tu as vécu aussi toutes ces souffrances à la croix pour nous sauver, pour que nous puissions être près de toi. Seigneur Jésus, merci, Seigneur, parce que alors que tu aurais pu rester dans ton ciel de gloire, tu es venu pour faire toutes ces choses. Et tu es vraiment le Fils de Dieu promis, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous à la croix du calvaire, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, pour que vraiment nous puissions faire cette démarche, Seigneur Jésus, de t'accepter comme sauveur personnel. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce et tes bienfaits. Amen.